RMC, cours numéro 1.
Salut à tous, bienvenue pour cet épisode de cours numéro 1, la fin du deuxième tour à Roland-Garros en ce jeudi 28 mai. Une journée historique, une journée incroyable. Moïse Kouamé, vainqueur à 17 ans d'un deuxième match. Et Yannick Sinner à la trappe, battu par la chaleur ou autre chose. On va en débattre, on va analyser et vous aurez des infos avec nous, Sarah Pitkowski. Salut Sarah.
Bonsoir à tous.
Et Léna Marjac, c'est pas Charlie et ses drôles de dames, mais pas loin. Salut Léna.
Salut tout le monde.
Bon, juste avant d'entrer dans le détail, c'est une journée incroyable. Enfin, de mémoire de spécialiste Sarah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une journée avec autant de rebondissements, autant de coups de tonnerre.
Ouais, historique. Historique parce qu'avoir un numéro 1 mondial qui sort au deuxième tour, c'est de mémoire d'anal. Je pense qu'il va falloir remonter très très loin. Je ne suis même pas sûre que ça eût existé. Et puis après, il y a les émotions extraordinaires que le jeune Moïse Kouamé a fait vivre à tout le monde, à tous ceux qui étaient dans le stade. Mais finalement, tous ceux qui étaient sur le Suzanne Lenglen, mais tous ceux qui étaient dans le stade, parce que lors de la balle de match, finalement, tout le stade s'est arrêté et était scotché devant les écrans pour voir cette balle de match. Tout s'est arrêté, je pense que les gens devant leur télé aussi. En fait, il fait un peu l'effet d'un lion marchand. Tout s'arrête. Voilà, tout s'arrête. Et non, il y a une véritable performance, autant sur la durée, l'engagement, la gestion du stress. Il a été impeccable, une maturité et sur le terrain et en conférence de presse. Mais ça, vous nous le direz parce qu'il est aussi très bon. Donc, a star is born.
Il était quasiment 16h. Bah justement, Léna, toi, tu étais dans les allées entre le Châtrier et le Suzanne Lenglen. Tu étais au cœur de la foule. Voilà, il n'y avait pas un seul mètre carré de disponible. Les gens du central regardaient l'écran géant sur Lenglen. C'était juste un moment fou, quoi.
Totalement, parce que pour visualiser, c'est que l'allée qui mène entre le Châtrier et le Lenglen était noire de monde et je devais circuler au milieu de tout ça. Et ben, c'était très compliqué parce qu'ils étaient tous devant l'écran géant pour suivre les derniers points de Moïse Kouamé. Et c'est vrai qu'il y a eu une effervescence, un engouement énorme encore une fois pour ce match-là de Moïse qui est allé jusqu'au bout. Hein, presque 5 heures de match, c'était complètement dingue. Et quand on a interroger certains spectateurs, c'est vrai que certains avaient même les larmes aux yeux. C'est pour vous dire ce qu'il a réalisé aujourd'hui et il a marqué vraiment tout le monde, comme disait Sarah, les gens qui étaient ici, mais aussi sûrement devant leur télé, parce que vraiment tout le monde s'est un peu attaché à ce garçon-là et je pense que ça va continuer encore un petit bout de temps.
Et c'est peut-être pas fini, il est le premier joueur depuis Rafael Nadal en 2003 à Wimbledon, premier joueur de 17 ans à se hisser au troisième tour. Alors Rafael Nadal était plus jeune, étant né fin mai, il est du 9 mars je crois, Moïse. Victoire contre Vallejo, le Paraguayen, 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 dans la dernière manche, 18 au super tie-break. Revenons sur le match Sarah de Moïse, où il y a deux premiers sets de patrons. Là, il jouait totalement à un niveau incroyable, le Paraguayen n'existait pas. Hein.
Oui, c'est lui qui était, finalement, c'est lui qui semblait le plus expérimenté. Alors, son adversaire, il faut aussi savoir qu'il jouait son premier Roland-Garros, il a que, ou déjà, c'est comme vous voulez, 22 ans, lui aussi était pris par l'événement, il avait du mal à installer son jeu. Pourtant, le Paraguayen, la terre battue, c'est sa surface de naissance. Et puis, petit à petit, il s'est mis en ordre de marche, mais c'est vrai que les deux premières manches, j'ai envie de dire, c'est pas qu'il n'y avait pas match, mais c'est que Moïse vraiment gérait aussi bien ses jeux de service que les retours, très agressifs. Et puis le match est équilibré, j'ai envie de dire, tant mieux, c'est ce qui a fait ce scénario qui était juste incroyable pour finir au tie-break. Moi je vais vous donner mon avis de spécialiste, il y avait des grosses erreurs du côté du Paraguayen qui a joué complètement faux. C'est-à-dire qu'il jouait sur le meilleur coup de Moïse Kouamé. C'est-à-dire qu'il allait systématiquement le chercher sur son revers et c'est ce qui lui coûte le cinquième set. Parce que Moïse, il a eu le cran de lâcher ses coups et notamment ce revers long de ligne. Il a planté, mais un nombre de revers long de ligne. Il est allé même au filet faire des services volés à des moments très opportuns. Donc voilà, c'est une super victoire. Mais l'adversaire a manqué beaucoup, beaucoup de lucidité.
Parce que Vallejo, c'est lui qui a le momentum dans le cinquième set. Oui. Il a un break d'avance, il mène 5-3.
5-2, après service Moïse Kouamé, mais sur le tableau d'affichage, il a été noté 5-2 quand même. Et Moïse revient à 5 partout, et ce tie-break, il a été bouillant, véritablement bouillant.
Ça dit quoi des ressources mentales de Kwame Cilic nous disait, parce qu'il était le premier adversaire de Kwame, pour montrer, il y avait déjà eu un tie-break, c'était au premier set, pour montrer autant de réussite dans les moments clés, c'est qu'on doit avoir une sacrée confiance en soi.
Mais il le dit, c'est ce qu'il dit lors de ses propos en conférence de presse. Il dit finalement, peu importe que tu sois mené ou que tu mènes, il faut garder la confiance en soi. Et il a pris comme exemple la finale de Roland-Garros l'année dernière entre Sinner et Alcaraz. Après, ce qu'il faut noter, alors oui, on peut être dithyrambique, mais une première expérience en 5-7, comme il dit, il n'a jamais joué à l'an. Tu t'entraînes pas 5 heures d'affilée au tennis, ça n'existe pas. Donc déjà, il joue 5 heures, il fait un 5-7 et en plus, il finit par une victoire. Donc en fait, il a emmagasiné avec cette victoire des dizaines de mois d'expérience qui vont lui servir pour la suite.
On écoute justement Moïse Kwame sur ses capacités physiques parce que c'était la première fois qu'il allait au-delà de 3-7. C'est sa première en Grand Chelem et évidemment, c'est sa première fois en 5-7. Moïse Kwame.
Moi, j'en ai découvert plus sur l'aspect physique, que je suis capable finalement de tenir une intensité assez haute pendant 4 heures et 50 minutes. Quand on s'entraîne, bon, c'est l'entraînement, il n'y a pas ce facteur stress, il n'y a pas ce facteur public, puis même il n'y avait pas ce facteur chaleur. C'est quand même trois éléments très très importants. Aujourd'hui, ils étaient tous réunis et bah, j'ai vu que j'ai pu me pousser au maximum dans mes retranchements. Et pour la citation, bah... Quand tu perds 5-2 au cinquième, et ce que j'ai appris l'année dernière de cette finale, Carlos Alcaraz a dû sauver 3 balles de match, c'est qu'il faut toujours croire en soi, même si t'es à 1 point de perdre, même si t'es à 1 point de gagner, c'est très important d'avoir toujours confiance en soi et ne jamais baisser les bras, toujours y croire, et aujourd'hui c'est ce que j'ai fait, donc je suis très content.
Alors là, des capacités, enfin faire 5 heures à 17 ans, on en reste bouche bée, enfin c'est seuls des extraterrestres, on en a connu... Très peu, mais c'est juste incroyable. Enfin, en fait, Sarah, quand on y repense tout bêtement.
Oui, après, je sais qu'on a tendance à vouloir remettre l'âge. En fait, c'est pas vraiment une question d'âge, c'est une question de maturité, en fait. C'est un joueur qui est programmé pour aller au plus haut niveau. C'est-à-dire programmé dans le sens où tout ce qui est construit, mais lui, il se programme aussi. C'est-à-dire qu'il se construit un mental et un physique en disant finalement, c'est pas une question d'âge. J'ai l'occasion là d'avoir une wildcard à Roland-Garros. Je suis français, on a un grand chelem, on m'offre la wildcard. Mais je vais kiffer comme jamais, je vais prendre ma chance. Donc en fait, je pense que c'est un peu notre défaut journalistique de remettre le côté 17 ans. Mais la manière dont il se comporte sur le terrain, c'est pas un joueur de 17 ans. Donc voilà, lui, peu importe, il joue des matchs, il est là pour les gagner, tous les gagner. Et comme il dit, si tu veux gagner un grand chelem, c'est pas un match en 5-7 que tu dois en gagner, c'est possiblement 7. Donc tu vois, il a une mentalité qui n'est pas celle du commun des joueurs d'un tableau de 128. Il se construit une mentalité d'un top 5.
Mais chez les hommes, tu as l'exemple de quelqu'un qui avait ce niveau de maturité à cet âge-là. J'en ai pas beaucoup.
Oui, il y a eu Rafa Nadal. Enfin, il y a Chang qui gagne quand même ici. Il a 17 ans et demi ou 18 ans. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut, enfin, dans la mesure du possible, il faut arrêter de mettre l'âge comme un argument. Il faut voir les progrès qu'il est en train de faire et surtout l'étoffe qu'il va prendre parce qu'il a un physique à 17 ans, mais ce physique va encore plus s'étoffer. Donc c'est ça qu'il faut regarder, c'est son niveau de jeu et comment il va progresser avec déjà ce niveau de jeu.
Quand on voit la barre qu'il met aujourd'hui et ceux qui l'ont fait dans l'histoire, tu me parles de Chang, tu me parles de Nadal, on parle de tous ces joueurs-là, donc ça montre aussi qu'il est quand même dans les pas de ceux qui sont allés très 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 haut. Et juste Sarah, on parle un peu de l'aspect tennis, mais sur l'aspect communication, on l'a vu, Léna, aussi bien la façon dont il joue avec le public, avec les médias, il est un peu plus dans le contrôle aussi, mais c'est carré, c'est mature aussi.
Mais même avec le public, il y a eu un changement entre le premier match et le deuxième match. On a senti qu'à la fin de son premier match, il était un petit peu plus stressé avec le public. Là, il s'est clairement lâché tout à l'heure. Enfin, quand on l'a entendu, il a joué avec eux déjà pendant le match, mais surtout à la fin, pendant l'interview, il a dit « Ah les gars, vous m'avez porté, c'est un peu grâce à vous aussi que j'ai gagné ». En termes de communication avec eux, il a été très bon aujourd'hui. Effectivement, avec les médias, quand on le retrouve après, c'est peut-être un peu plus cadré, carré de sa part, parce que je pense qu'on essaye de le protéger aussi, et donc on lui dit de se tenir un petit peu en conf de presse. Mais il se livre déjà un petit peu plus pareil entre le premier et le deuxième match avec les médias, donc ça risque aussi d'évoluer parce qu'il va prendre confiance face à nous. Mais en tout cas, c'est un garçon qu'on écoute avec plaisir parce qu'il est, ouais, il est intelligent, il a 17 ans, mais il est très intelligent.
Alors évidemment, nous, journalistes, on adore les comparaisons, Sarah, c'est l'héritier de Gaël. Parce que quand on voit Joe Wilfried, Arthur, il y a une forme de contrôle, de carapace dans la gestion des émotions et ce jeu avec le public. Quand on voit Moïse, il n'arrête pas pendant le match à demander du soutien. Ils sont tous les deux franciliens, parisiens. On voit la puissance athlétique, on voit le show. On se dit qu'il y a un petit côté héritage, et surtout quand on voit la fin de Gaël sur ce Roland, et un jour après peut-être le début de l'histoire de Moïse avec la porte d'Auteuil.
Bah, c'est un passage de témoin, voilà. Mais oui, je sais, on veut toujours faire des comparaisons, encore une fois. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, le chemin est long, il y a des blessures à gérer. Il y aura forcément des moments un peu moins bien. Et puis, il faut faire les bons choix. Il faut garder la tête froide. Enfin, il y a tellement d'éléments aujourd'hui. Ce que je dis souvent, et je dis là dans le podcast, mais que je répète souvent, je pense que c'est beaucoup plus difficile de réussir aujourd'hui parce que les tentations sont tellement beaucoup plus nombreuses. Les sollicitations sont beaucoup plus nombreuses qu'il y a une dizaine d'années, même au début de nos jeunes mousquetaires. Que rester droit et garder en tête ta carrière comme étant ton premier objectif, c'est pas facile. Donc restons prudents. Pour l'instant, il a les capacités, il a tous les ingrédients. Et j'ai envie de dire, l'écueil, c'est de ne pas se perdre en chemin.
Passons à la stupeur, au tremblement, au choc. L'Italie, déjà, n'est pas à la Coupe du monde de foot. Et elle a perdu déjà Yannick Sinner le 28 mai 2026 après son deuxième tour. Battu par Juan Manuel Cerundolo, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Yannick Sinner, tout se passait bien après deux heures de jeu. Il menait 6-3, 6-2, 5-1. Et là, la catastrophe. 7 jeux perdus de suite. Il est en panique à, je crois, 5-4 ou 5-5 après avoir perdu 18 points de suite. Il demande, il n'est pas bien. Et quelque chose ne va pas, il s'assoit près des géraniums à 0,40. On se dit, c'est le coup de chaud, on le voit se tenir un petit peu derrière la fesse, est-ce que c'est physique et tout. On va écouter tout simplement, avant de s'exprimer, la réaction de Yannick Sinner, l'explication de cette défaite.
Ce matin, je me sentais un peu mieux après l'échauffement, mais au milieu du troisième set, je me suis complètement pris le mur et je n'ai jamais vraiment réussi à récupérer. J'ai essayé d'économiser de l'énergie dans le quatrième set pour revenir plus fort dans le cinquième, mais perdre mon service d'entrée, ce n'était clairement pas le début que je voulais. Aujourd'hui, je n'avais plus d'énergie, je ne trouvais aucune solution et ça ne m'arrive presque jamais. Je ne suis pas un robot, je n'ai pas vraiment d'explication, mais la chaleur n'est pas une excuse. Les conditions étaient bonnes, j'espère simplement être prêt pour Wimbledon.
Alors c'est assez flou, il dit bah, « j'avais plus d'énergie ». Mais c'est quoi ça? C'est un coup de chaleur? C'est une blessure? Tu penses à quoi, Sarah, toi?
Au début, on cherche à décrypter ce qu'on voit sur le terrain et puis d'essayer de faire une traduction du body language. Donc à 0,40 sur son service, il s'arrête en plein jeu. Déjà, le règlement fait que tu ne peux pas t'arrêter en plein jeu, sauf si tu te blesses de manière brutale, donc pas une blessure existante. Et donc, il s'approche de l'arbitre et l'arbitre lui dit bah, « si tu es blessé, oui ». On peut arrêter le jeu et faire appeler le médecin, mais parce qu'il dit je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien. Mais ça, c'est ce qu'on sait après, ce que les rumeurs sont sorties des vestiaires et ce qu'on a appris. Mais sur le moment, comme il sort, on se dit bah, il est blessé. Et puis effectivement, pendant toute la fin du match, il se tient, il est plié en deux. Donc moi, ma lecture, c'est il a une élongation, il s'est fait mal, il a dû prendre des anti-inflammatoires, et le temps que les anti-inflammatoires fassent effet, je me dis, c'est pour ça qu'il continue de jouer, en se disant que les anti-inflammatoires vont faire effet. Et en fait, j'ai été très surprise qu'en conférence de presse, il ne parle pas du tout de blessure. Et donc, en fait, la lecture qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a eu une défaillance physique. Encore due à la chaleur, qu'il a perdu le nord, il a perdu le sud, enfin, il a tout perdu, qu'il a demandé de l'aide, effectivement, aux médecins et aux kinés. D'ailleurs, on le voyait en plus des serviettes de glace. Il avait des poches de glace sur le visage. On voyait bien qu'il y avait un malaise. Mais il a pensé... Et je comprends maintenant. En fait, il a continué parce qu'il était en état physique de continuer, mais parce qu'il a cru à un moment que ça allait revenir. Et il y a eu le cas, le premier jour, avec Casper Ruud, qui a eu un énorme coup de chaud et qui a réussi à se remettre petit à petit dans la cinquième manche. Peut-être qu'il a cru à un moment que ça allait revenir, donc il s'est dit, je laisse passer le train, j'attends. Mais en fait, c'est jamais revenu. Et à la fin, il ne pouvait plus bouger les gens, il ne pouvait plus pousser au service. Mais le peu de jeu qu'il a gagné, on le voyait serrer le poing. Maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi il a été au bout du match. Parce que ma première impression, on se dit, mais arrête, t'es blessé. Et d'ailleurs, tout son staff lui faisait des grands signes en croix. Arrête, stop. Mais en fait, non, il n'y avait pas de blessure mécanique. Il y avait une cocotte minute à la place de la tête.
Léna, t'as épluché, écouté, vu sa conférence de presse. Oui, il est flou. Alors, il dit, je ne suis pas un robot. Il y a eu plein de déclarations où... Il a nié même que c'était finalement la chaleur, il dit que c'était jouable en fait.
Ouais, finalement c'est exactement ça, c'est qu'il dit non, aujourd'hui il faisait chaud certes, mais on pouvait clairement jouer. Alors on le rappelle, hein, il faisait à ce moment-là plus de 30 degrés à l'ombre.
35 même.
À l'ombre, donc plein soleil, je pense qu'on approchait des 40, et quand tu joues plus de 4 heures comme ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment ça peut taper sur le système. Mais c'est vrai que lui, en conférence de presse, il a voulu entre guillemets rassurer tout le monde. Il parle pas de blessure, comme dit Sarah. La chaleur, il estime que ça n'a pas forcément joué, mais juste qu'au réveil ce matin, il se sentait pas bien. Alors voilà, est-ce que c'est...
Oui, il se sentait pas bien, mais il mène 2-7-0, 5-1.
Il dit qu'il s'est très bien échauffé, qu'il tapait bien la balle.
C'est super.
Il est flou, c'est dans ses arguments. C'est pour ça, on comprend pas vraiment ce qu'il y a. Je pense qu'il a pas voulu être très honnête sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui et qu'il voulait peut-être pas reconnaître que c'est juste le soleil à température.
Oui, donc on est à 3, hein. Shanghai l'année dernière face à Medvedev, coup de chaleur. Spizziri, il s'en sort à l'Open d'Australie par un miracle parce qu'on ferme le toit. Djokovic, c'est aussi une défaillance et là une nouvelle défaillance. Donc c'est étonnant en fait l'écart entre ce qu'il est capable de jouer, c'est-à-dire que la qualité de tennis, la vitesse de balle, enfin le joueur extraordinaire, et en fait dès que tu mets la tête dans le four, il fonctionne plus, quoi. Il fonctionne plus, donc il y a un vrai... je ne sais même pas s'il y a un travail à faire, parce que tu peux corporellement être quelqu'un qui supporte plus ou moins la chaleur, mais là ça commence à s'accumuler. Donc, et puis alors, on va nous dire, mais pourquoi il a demandé à jouer à midi ? Et bien, il semblerait que ça soit son staff qui ait dit, oui, mettez-nous en début de journée. Il aura plus le temps de récupérer. Ah bah oui, là, il a 10 jours pour récupérer. Hein.
Si c'est mieux de jouer à midi qu'à 16h et qu'en nuit, on sait que les joueurs n'arrivent pas à dormir. Donc peut-être que le calcul n'était pas si bête que ça à la base, même s'il s'est révélé dramatique.
Oui, effectivement. Mais la conséquence est qu'on perd le numéro 1 mondial, on perd le grand, grand, grand favori. On disait qu'on ne voyait pas qui pouvait le déranger, si ce n'est lui-même, son corps et la chaleur. Je crois qu'on en a eu la preuve.
Alors, je vais les regarder, je vais peut-être vous faire mal, mesdames, la partie haute du tableau, désormais. Nous avons donc, au troisième tour, Cerundolo face à l'Andalouche, Berrettini face à Comesana, Faria face à Tiafo, Arnaldi face à Collignon, Oje Aliassim Nakashima, Kwame Tabilo, Koboli Tien, Cerundolo Zvajda. Un de ces noms sera en demi-finale de Roland-Garros.
Exactement, et là, tu lances la pièce en l'air. Et tu dis qu'il y en a un, ça va être le jackpot. Ça va être le jackpot. Et si Djokovic n'est pas en finale, on aura un nouveau vainqueur de Roland-Garros. Un joueur qui n'a encore jamais gagné un grand chelem. Aucun joueur n'a...
Djoko 2023 pour le dernier, le reste c'était Alcaraz et Sinner.
Et tout le reste du tableau, personne n'a gagné le grand chelem. Il y a Medvedev, non. Casper Ruud qui a fait deux finales non plus. Donc on aura un nouveau vainqueur de grand chelem, de tous les grands chelems. Voilà, il y en aura un qui se sera faufilé. Après, on va surveiller le match de Djokovic, forcément, parce que maintenant on va se concentrer sur Djoko. Mais le chemin ne va pas être si évident que ça.
Là, avec du recul, c'est la fameuse science-fiction et des si. Mais je suis Arthur Fils, je suis dégoûté.
Ouais, enfin non, je... Oui, oui, absolument. C'est... Mais avec des scies, on mettrait pareil en bouteille. Donc oui, on a tendance à vouloir faire ce raccourci-là.
Et avec des scies, je vous mets Diane Paris au troisième tour. La transition est toute trouvée, puisque nous aurons une joueuse française. Elsa Jacquemot a été battue par Arina Sabalenka 7-5, 6-2. On va en dire un mot, puisqu'elle a plutôt bien résisté à la numéro 1 mondiale. Et juste avant, Diane Paris a battu l'américaine Lee, tête de série numéro 30, 6-3, 6-4. Sur le central, bah, moi j'ai envie de dire, oui, ici c'est Paris, mais elle a été solide, notre Française.
Oui, oui, Diane Paris qui sort d'un titre là à quelques mètres du stade Roland-Garros, puisqu'elle a gagné le trophée Clarins qui se joue sur les terres du Racing Club de France. Elle est sur une bonne lancée. Deux matchs sur le central. Cette fois-ci, elle savait qu'elle allait jouer sur le central, donc elle a pu se préparer. Elle a fait un match solide, vraiment un match plein. Il n'y a pas eu trop de baisse de régime. C'était un bon tour, mais il fallait le faire. Une Américaine dont on voit que la terre battue, ce n'est pas sa surface de prédilection. Hein. Et puis aussi, l'Américaine qui se retrouve sur cet énorme court qui est le central, ça peut aussi... On a quand même une perte de repères. Donc, bravo à Diane d'en avoir bien profité. Et puis, concernant Elsa Jacquemot, oui, Elsa, elle a réussi à tenir sa tactique sur la première manche. Bon, après, il y a la puissance qui parle. Hein. Sabalenka, ça fait du bruit, ça frappe fort. C'est un rouleau compresseur. Donc, quand elle se met en route, c'est difficile de l'arrêter. Mais elle s'est vraiment bien défendue.
Diane Paris qui sera opposée à une nouvelle fois une joueuse américaine. Anisimova, donc, ce sera samedi. En revanche, pour nos garçons, avec Moïse Kouame, ça s'est très bien passé. Mais allez, oui, trois déceptions, parce que Lucas Vernaché s'incline en 5-7 face à Nakashima. C'était d'ailleurs le dernier joueur à terminer. Arthur Rinderknecht n'a pas vraiment existé face à Berrettini. Certes, ça fait 6-4, 6-4, 6-4, Sarah, mais il n'y avait rien chez Arthur. Il n'y avait pas d'étincelle, il a cassé sa raquette. J'ai envie de dire un match sans étincelle.
Oui, après, c'est sûr qu'un Berrettini qui joue son niveau, il a tout à fait le tennis pour gêner Arthur sur terre battue. Les breaks sont arrivés trop tôt dans le set, donc il était sur les 3 sets, il se fait breaker trop tôt, donc il court derrière le score. Et Berrettini, c'est un joueur qui peut être très dangereux. Il a été longtemps blessé, mais oui, c'est pas un jeu qui lui convient. Après, effectivement, Arthur était un peu éteint. Il a pas trouvé la grinta. Il y a des jours comme ça, c'est un peu dommage. Et puis Hugo Gaston qui a perdu contre un autre Cerundolo.
Francesco, le meilleur pour l'instant.
Oui, tête de série, l'aîné en tout cas. Il s'est incliné en 4-7. Donc voilà, il nous reste deux Français au troisième tour. Bilan maigre, hein. Trois Français, deux Français et une Française.
Oui, juste sur Rinderknecht, puisqu'on était ensemble sur le central, l'ENA. Bon, la seule étincelle, c'est quand il a cassé sa raquette après un double break. Mais on s'est dit, bon, allez, peut-être qu'il va laisser passer l'orage. Et on a vu, allez, il a fait deux points où le public aussi du Châtrier était là, il a essayé de l'embarquer. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'il était peut-être pas loin de pouvoir faire douter Berrettini, ou qu'au final, l'Italien avait pas bougé, quoi?
Je pense que c'était juste un petit sursaut d'orgueil. Ça lui a fait du bien de casser la raquette, clairement. Derrière, il a pu aller chercher un premier débreak. Ça n'aura clairement pas suffi. Il est allé essayer de chercher aussi ce public, que depuis le début, il n'y avait pas forcément une très grosse ambiance. Alors ça l'a révolté un petit peu. Même dans son box, hein, on a vu Lucas Pouille serrer le poing, l'encourager un peu plus. Mais mine de rien, non, ça n'a pas plus inquiété que ça l'Italien en face, qui après a malgré tout quand même déroulé. Donc le cassage de raquette a fait du bien, ça a duré 5 minutes. Et après, malheureusement, ça a balancé, enfin ça a tourné du bon côté, du côté de Berrettini en tout cas.
Sarah, tu l'as dit, il n'y a plus que 3 Français engagés. Kouame et Paris on joue aujourd'hui, donc joueront samedi, peut-être pas en même temps que le Paris Saint-Germain. Les deux ne le souhaitent pas, surtout Diane Paris qui est arrivée avec un maillot du Paris Saint-Germain. Demain, début du troisième tour et la session de nuit, on aura droit à un nouveau Français, Quentin Alice face à Sacha Zverev. Quentin qui a battu Hugo Humbert au tour précédent. Bon là, évidemment, Zverev, c'est un autre morceau, hein.
Oui, clairement, c'est quand même une autre pointure. Il faut aussi savoir que Sacha Zverev, c'est un joueur qui se déplace très bien sur terre battue, gros service, énorme revers. Et puis, c'est un joueur qui a un plafond de verre. celui des grands chelems. Et quand on voit le tableau qui se dégage comme ça, je présume que il va être encore plus concentré. Voilà. Donc il faut être raisonnable quand un Lys n'a pas beaucoup de chance. Mais après, un match de tennis, c'est un match de tennis. On en voit là depuis le début. On voit des surprises partout. Mais oui, Zverev est clairement plus que favori.
Sur quel terrain il faut amener Zverev? Parce que si on veut au terrain de la baston du fond de cour, on perd face à Zverev.
Bah, il faut aller le chercher sur le coup droit. Parce que le revers, c'est fantastique. Il va falloir très, très bien servir pour se protéger et puis prendre des risques que Quentin aille dans l'échange au filet pour bousculer un peu Zverev. Mais pour l'instant, avec toute la lucidité, l'Allemand a des meilleurs coups dans tous les compartiments du jeu. Mais le public, on ne sait jamais. Voilà.
La première sur le central, je crois, je pense, pour Quentin.
Alors là, tu me poses une colle.
Mais il n'a pas joué beaucoup
si,
de fois.
Si, l'année dernière. Holger Rune, bien oui. sûr. Et d'ailleurs, oui. il était à deux points de sortir Holger Rune au troisième tour. C'était sur le central, mais ce n'était pas en night session.
Voilà, et là, ça change tout. Et juste avant, ce sera sur le court central. Ça démarre à midi. Magdalinette, Iga Świątek, 100% Pologne, cette affiche. Andreeva face à Buzkova. Et alors là, cette affiche, on va voir ce que à la fois l'un et l'autre ont vraiment dans le ventre sur son Roland-Garros, Sarah Helena. João Fonseca, la pépite brésilienne, mais qu'on attend peut-être de faire enfin sa grosse perf en grand chelem face à Novak Djokovic. Fonseca qui s'en est sorti en 5-7 face à Primic. On était à deux doigts de revoir des retrouvailles entre Primic et Djokovic.
Oui, Primic qui a battu Djoko il y a une semaine.
Deux semaines à Rome.
C'était deux semaines, oui, à Rome. Que dire? Bah, c'est un autre test. Un autre test pour Djokovic. Un autre niveau, un autre test. Il va encore devoir jouer de l'expérience parce que il est quand même un petit peu moins précis, un petit peu moins régulier. Là, je parle de Djokovic. Ça va être intéressant de voir comment le Serbe va se sortir de ce match-là. On est tous attentifs. Enfin, on a tous envie de le voir parce qu'il peut se passer quelque chose. C'est très, très, très loin d'être gagné pour Djoko. Hein. Très loin.
C'est un test pour savoir ce que Djoko peut ambitionner sur ce Roland, en fait, la façon de savoir comment il va passer ou pas l'obstacle Fonseca.
Oui, oui. Et puis, comment il est capable d'élever son niveau de jeu. La terre battue, c'est une surface qui est tellement exigeante, qui te lessive de l'intérieur. En plus, on a des conditions. Même Djoko n'aime pas jouer le soir. Il a demandé à ne pas être en night session. Donc, il sera en fin de journée. Mais comme il y a deux matchs féminins, il peut rentrer sur le terrain.
À 15h30, quoi.
Il peut rentrer sur le terrain en plein cagnard. Et ça, c'est un élément aujourd'hui, la chaleur depuis le début du tournoi, qui est un adversaire supplémentaire pour chaque joueur.
C'est clairement l'affiche de demain. On a envie de la voir, celle-là, Léna.
Ah, clairement, ça c'est la belle affiche qu'on attendait tous. Déjà parce que Fonseca aussi, c'est un peu le garçon dont on parle depuis des mois, qu'on a envie de voir aussi jusqu'où il est capable d'aller. Et puis Djokovic, voilà, 39 ans, qui veut aller chercher son 25e grand chelem. Donc à voir, mais en tout cas ça va être une belle baston je pense sur le court Philippe Châtrier. Effectivement la chaleur à voir parce que Djokovic a laissé de l'énergie face à Valentin Royer. Et il en avait d'ailleurs parlé après le match, hein, Djokovic, hein, c'est plus de 3h40.
C'est 6h30 passé sur le court en deux matchs, 2-7, 1-7 par match laissé à l'adversaire.
Donc à voir comment physiquement lui aussi, parce qu'à son âge, mine de rien, la récupération c'est pas facile. Long. Et puis bah, là, plein cagnard potentiellement ce jeudi face à Fonseca, là aussi ça peut jouer. Donc en tout cas, belle affiche et on a hâte.
Et puis le petit tips de cours numéro 1, le Simon Mathieu, on a un Mikkelsen Rodard à aller voir, ça c'est pas mal. Sur l'Anglen, on aura Svitolina Korpach et puis Ruud face à Paul, qui je crois jouera Fonseca ou Djokovic au prochain tour. Merci beaucoup mesdames pour ce podcast. Voilà, Sinner qui sort au deuxième tour, Kouamé, 17 ans au troisième tour. Je pense qu'on n'est pas prêt d'en refaire un comme ça. Hein.
Et puis nous, dans le podcast cours numéro 1, on a une night session féminine. Tu vois ?
Exactement.
Voilà, contrairement au tournoi, on a aligné une équipe féminine.
On remerciera l'ami Eric Salio qui sait toujours choisir ses jours de repos avec une précision chirurgicale. Merci beaucoup, cours numéro 1, que vous retrouvez de manière quotidienne pendant cette quinzaine de Roland-Garros sur toutes les plateformes. À demain, ciao.
RMC, cours numéro 1.